banana.
18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, la quotidienne est en grève. Vous nous entendez, mais en fait, on n'est pas à la radio. On s'est pré-enregistré. Alors on vous laisse pas sans rien. Vous allez découvrir les deux premiers épisodes du podcast Riposte, le récit du journalisme dans le dur, produit par le média d'investigation breton Splend, avec le soutien de l'association Journalisme et Citoyenneté, Radio Campus France et les Assises du journalisme de Tours.
Mener un combat civilisationnel, faire gagner l'extrême droite française en 2027. Ce projet n'a jamais été aussi concret. D'abord enclenché par Vincent Bolloré, il vient de passer la vitesse supérieure sous l'impulsion d'un autre milliardaire identitaire, Pierre-Édouard Sterrin. Au cœur de cette bataille idéologique, la concentration des médias et la fabrication de l'opinion. Qu'il s'agisse de l'Empire Vivendi ou du projet Périclès, plus que jamais, l'information est au cœur de cette guerre des récits. Contre les obsessions fascisantes, les manipulations médiatiques et autres polarisations politiques, Riposte se veut être un petit manuel d'autodéfense intellectuelle pour réenclencher l'impact citoyen et la défense de nos communs.
Tout ça, c'est d'après une idée originale du journaliste Pierre-Yves Bulteau. On vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve ce jeudi, 18h, pour une nouvelle quotidienne.
Des attaques aux réactions, Riposte, le podcast du journalisme dans le dur. Plus que jamais, le journalisme est un sport collectif et de combat, sans grande boxe ni retouche IA. Contre les obsessions fascisantes, les manipulations médiatiques et autres polarisations politiques, l'information est au cœur de la bataille des récits. Riposte, c'est le nom de ce podcast, un outil démocratique pour réenclencher l'impact citoyen. Un petit manuel d'autodéfense intellectuelle pour se réarmer et défendre nos communs. Alors, micro en main avec Juliette Demey, nous avons profité de l'édition 2025 des Assises du journalisme de Tours pour enchaîner les entretiens. Avec des chercheurs, des lanceurs d'alerte, des parlementaires et bien sûr des journalistes. Des témoignages qui documentent les atteintes contre la liberté d'informer, autant d'axes de réflexion possibles pour préserver le droit de savoir. Riposte, le podcast du journalisme dans le dur, c'est parti.
On a vu rappliquer des têtes de gondole de CNews sur l'antenne d'Europe 1. On était déjà un peu colonisés.
C'est vrai que la façon dont nous, on le voit, ce sont des alertes qui permettent de faire vivre la démocratie aussi.
Donc, la moindre des choses, c'est de respecter la base, c'est-à-dire on présente des faits qu'on a préalablement recoupés et on respecte les différentes opinions tant qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi, bien sûr. C'est hallucinant qu'on soit obligé de le dire.
Et donc, il s'agit pour nous, collectivement et individuellement, de résister face à l'emprise croissante de ces plateformes qui sont structurellement toxiques.
Moins connue que les grèves historiques qui secoueront les rédactions d'ITélé et du JDD, la révolte des salariés d'Europe 1 est symptomatique des raids médiatiques menés par Bolloré. Nous sommes au printemps 2021, très exactement le 17 juin, quand une quarantaine de salariés, sur les 204 que compte la radio privée, provoque une assemblée générale. Parmi eux, Olivier Samin, reporter depuis 39 ans à Europe 1, le représentant du syndicat national des journalistes sonne l'alarme. Dans le viseur des grévistes, une nouvelle grille des programmes déclinée sur celle de CNews, un calque qui annonce un virage éditorial ultra-conservateur, alors même que la campagne pour la présidentielle de 2022 démarre. Face à cette brutale reprise en main, les salariés décident d'enclencher le rapport de force et le médiatisent auprès de leurs auditeurs, mais aussi auprès des principales sociétés des journalistes du pays, un parti pris qui n'est pas un simple baroud d'honneur face au milliardaire et son combat civilisationnel. Il se révélera même être stratégique auprès de l'opinion publique. La suite, c'est Olivier Samin qui la raconte.
Notre mobilisation, elle remonte à juin 2021. Je suis Olivier Samin. J'ai été pendant 39 ans journaliste à Europe 1. À l'époque, Bolloré manifestait clairement son intention de reprendre le groupe Lagardère. Il était déjà monté au capital. Et d'ailleurs, en fait, il a pris le pouvoir assez rapidement dans cette radio, avant même d'en avoir les capacités juridiques, puisque dès l'été 2021, on a vu rappliquer des têtes de gondole de CNews sur l'antenne d'Europe 1. Et à l'automne 2021, la grille de rentrée a été très marquée par l'emprise de CNews, avec l'arrivée de journalistes comme Laurence Ferrari, Dimitri Pavlenko, etc. On était déjà un peu colonisés. Et donc, nous, on ne voulait pas de ce schéma. Et on s'est mobilisé de façon spontanée, en faisant des assemblées générales au niveau de l'ensemble des personnels d'Europe 1. Et on s'est mis en grève. Alors, cette grève, elle a duré 5 jours et demi. Mais en tout cas, on s'est mobilisé pour prendre à témoin l'opinion publique et d'abord nos auditeurs et leur dire « Écoutez, il se trame des choses autour de cette radio. Vous êtes attachés à cette radio depuis longtemps. Sachez que nous, la rédaction, l'essentiel des journalistes de cette radio, on ne se reconnaît pas dans ce qu'elle va devenir sous la férule de Bolloré dès qu'il aura pris le pouvoir. »
J'ai pas fait le compte de tous les burn-out qu'il y a eu dans l'entreprise, mais...
Jean-Gabriel Bourgeois.
Ou en tout cas des gens qui sont arrêtés.
Président de la Société des rédacteurs d'Europe 1.
Plusieurs semaines, plusieurs mois, les départs qui sont aussi faits dans certaines conditions qui sont délicates pour les animateurs, les journalistes. Le ton qui monte dans certaines réunions, les intimidations, les pressions qui sont exercées sur les journalistes, sur les salariés, parfois certaines insultes aussi. C'est pas nouveau, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, mais les gens aujourd'hui ont le courage de le dire et de parler et de se mobiliser.
D'une certaine façon, le fait que les journaux se sont emparés de ce qu'on racontait, on racontait au jour le jour notre conflit et puis nos interpellations, etc. Tout ça, ça a abouti au fait que c'était mis sur la place publique et que du coup, c'était connu du public. Et par la suite, quand les journalistes d'Europe 1 ont quitté cette radio dans le cadre du plan de départ mis en place avec une sorte de clause de conscience, eh bien, on nous a fait signer une clause de confidentialité, nous interdisant de révéler des choses qui ne seraient pas connues du public concernant Europe 1. Oui, mais comme on avait mis beaucoup de choses sur la place publique pendant notre mobilisation, eh bien, on pouvait, par la suite, en parler parce que c'était connu du public. Donc, ça nous a protégés. C'est un aspect qui est intéressant pour combattre justement cette clause de confidentialité qui est imposée par beaucoup de groupes et qui en fait muselle la parole. Bon, ben nous, on a pu s'en affranchir grâce à cette médiatisation que nous avons sollicitée. C'était aussi notre motivation. On savait bien que le bulldozer Bolloré ne s'arrêterait pas face à une mobilisation et une grève de 5 jours d'une centaine de journalistes d'Europe 1. Mais au moins, le fait de mettre sur la place publique, de sensibiliser, de créer du débat, de faire prendre conscience aux auditeurs et aux citoyens de ce qui se trame avec l'arrivée d'un groupe qui a des intentions politiques affichées et qui veut transformer les médias d'information en des médias d'opinion, eh ben, c'est important que ça soit connu. Et au moins, on a apporté cette petite pierre au combat pour une information libre.
Bolloré est un facho, il veut le RN partout. Hanouna un collabo, on sait bien qu'il lui doit tout. C'est son chien, bien obéissant toutou. Fait ce que dit son même maître en échange de sous-sous. La Ligue de l'Humanité réunie à la télé. Sa radio et ses journaux présentés par des rassos. Des rassos, des rassos, des rassos. En échange de sous-sous. Des rassos, des rassos, des rassos. Bien obéissant toutou. Font croire aux gens qu'ils sont bêtes. Parce qu'elle faut, il est très chouette. Alors c'est juste une carpette.
Mais c'est insupportable.
Gros rassos.
On vient de l'entendre, la mise au pas d'Europe 1 s'est jouée en 5 petits jours. 2 ans plus tard, rebelote, le milliardaire breton tente de tordre le bras au JDD en imposant à sa rédaction un directeur d'extrême droite. Là aussi, la réaction ne se fait pas attendre. Journalistique, citoyenne et dans une moindre mesure politique, la riposte se transforme en 40 jours d'une grève en défense d'une ligne éditoriale pluraliste salement attaquée. Que l'on apprécie ou non cette ligne, là n'est pas la question. Pour qu'une démocratie reste une démocratie, seule compte cette règle de l'expression libre des opinions dans le respect de l'éthique journalistique et des lois de la République. Un fondement qui finira par pousser l'ARCOM à couper le son et l'image de C8, une fréquence de la TNT en moins pour Bolloré, un répit qui masque pourtant un énorme chantier. Celui de sanctuariser l'indépendance des rédactions, des raids menés par les tenants du combat de civilisation. Alors que le rapport de force s'essouffle, en juillet 2023, la députée NUPES Sophie Tallier-Polian dépose une proposition de loi transpartisane qui, en son cœur, vise à la mise en place du droit d'agrément des journalistes sur la nomination de leur directeur ou directrice de l'information. Un verrou législatif qui, sans nul doute, aurait freiné les appétits bolloréens et qui ne figurait pas dans la loi Bloche de 2016, loi pourtant censée renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, un raté d'autant plus incompréhensible que cette loi avait été votée en réaction à ce précédent concentrationnaire qui avait vu la rédaction d'ITélé affronter en 2015 les assauts éditoriaux du même milliardaire breton. Un raté qui aurait dû être rattrapé par les états généraux de l'information. Oui, mais voilà, la suite, c'est Sophie Tallier-Polian qui nous la raconte.
Confie des canaux à des éditeurs privés pour la plupart, mais sous réserve qu'ils respectent des règles.
Je suis Sophie Tallier-Polian, députée Génération du Val-de-Marne, membre du groupe écologiste et social, et en charge de suivre les questions des médias. Quand ces règles-là ne sont pas respectées, je dirais dans un média totalement privé, c'est comme ça. Je veux dire, on peut le dénoncer, mais on ne va pas interdire les journaux qui ne nous plaisent pas. Mais par contre, la TNT, c'est un espace particulier qui coûte de l'argent aux contribuables, qui est donné à titre gracieux aux éditeurs qui font des chaînes. Donc la moindre des choses, c'est de respecter la base, c'est-à-dire on présente des faits qu'on a préalablement recoupés et on respecte les différentes opinions tant qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi, bien sûr. C'est quand même important de le dire, mais c'est hallucinant qu'on soit obligé de le dire. On est obligé de dire que c'est pas possible à la télévision française que continuent à s'exprimer des opinions illégales. Vous voyez le niveau auquel on en est arrivé. Donc c'est indéniablement une bonne nouvelle que cette légitimité très forte que confère la présence sur la TNT ne soit pas donnée à des gens qui ne respectent pas les règles de la bienséance, premièrement, concernant Cyril Hanouna, et les règles de la déontologie journalistique concernant CNews. Moi, je trouve que la disparition de C8 est une bonne nouvelle, mais le maintien de CNews est une mauvaise nouvelle. C'est une décision de l'ARCOM, j'en prends acte. Cependant, je serai très attentive à ce que le cahier des charges nouvellement signé, qui est un petit peu plus dur que l'ancien, soit réellement appliqué, pour que, à la moindre incartade, il y ait des sanctions immédiates et très fortes.
Aujourd'hui, il est nécessaire que des citoyens prennent les choses en main, fassent pression sur leur gouvernement.
Agnès Rousseau, aux états généraux de la presse indépendante.
Pour qu'on trouve un système qui soit beaucoup plus sain d'un point de vue du contrôle citoyen sur l'information.
On nous dit sans arrêt, il va y avoir un projet de loi sur les états généraux de l'information, mais enfin bon, on le voit pas venir. Et par contre, ce qu'on voit venir, et on voit l'insistance et la pugnacité de la ministre de la Culture à inscrire à l'ordre du jour un projet de loi ou une proposition de loi de fragilisation de l'audiovisuel public. Moi, je qualifie un projet de loi de fragilisation, qui est d'autant plus grave dans la situation que je viens de décrire précédemment. C'est le fait qu'on nous impose des sujets qui sont pas du tout urgents à l'ordre du jour, qui vont même dans le mauvais sens, alors qu'il y aurait une majorité, je pense, pour un projet de loi large, fort, issu des états généraux de l'information, pour aller dans le bon sens. Pourquoi on commence pas par ce sur quoi on a une majorité et qui va dans le bon sens? Toutes les personnes qui se réclament de la démocratie, qui ne sont pas affiliées ou proches de l'extrême droite, sont prêtes à la voter. Moi, j'ai assisté à plusieurs conférences, échanges plus ou moins formels, avec des gens des groupes allant de LFI jusqu'à Horizon, disant qu'il n'y avait pas de ligne rouge dans les états généraux. Donc ça veut dire quand même qu'on peut avancer, pourquoi on ne commence pas par là? Donc je pense que la première bataille, elle est sur les mots, et de dire qu'est-ce que c'est la liberté d'expression, et qu'est-ce que c'est la garantie d'accès aux citoyens à l'information. Donc exprimer des opinions, c'est une chose. Mais sur le canal de la TNT, l'obligation, c'est que les différentes opinions s'expriment. Ça, c'est absolument, absolument essentiel. Et c'est ce qui n'est pas respecté, toujours pas d'ailleurs, je crois, sur CNews. Ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. Donc, ce sont des donneurs de leçons et il ne faut pas qu'on s'en laisse compter et qu'on puisse reprendre à la base, et notamment par l'éducation aux médias, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est que des garanties qui doivent être données d'accès à l'information à tous les citoyens et citoyennes. Et tout ça, c'est constitutif de la démocratie.
Tu la sens, la lumière ? l'histoire qui s'accélère, la sensation de danger. C'est le genre de lumière dans laquelle on s'enfonce. Qui dit t'en vas pas, assieds-toi. Dire des bêtises, faire une bêtise. La nuit, sans défense. Une fois, deux fois, trois fois.
Entrer dans une salle de classe n'est jamais anodin. D'ailleurs, on n'entre pas dans une classe, on y est invité. Cette entrée n'est pas un quelconque retour en enfance, c'est une responsabilité, celle de prendre en cours une réflexion collective et de l'accompagner. Que l'on ait pour cela 15, 20 ou 30 heures, d'abord il faut savoir écouter, beaucoup, cerner les malentendus et les procès faits au journalisme. Cette action a un nom, l'éducation aux médias et à l'information. Un enjeu démocratique majeur. Pourtant, à l'heure des faits alternatifs et de la post-vérité, le gouvernement a décidé de geler la part collective du pass culture, un choix de la tronçonneuse qui a eu un effet immédiat et délétère, celui de voir bon nombre d'écoles, collèges et lycées renoncer à la venue de journalistes dans leur salle de classe. Un choix d'autant plus incompréhensible qu'il a été rendu public quelques jours seulement après les commémorations des 10 ans des attentats de janvier 2015, dont ceux contre la rédaction de Charlie Hebdo, un choix qui a provoqué une réaction des premiers concernés, dont l'envie de lancer ce podcast. La suite, maintenant, vous en avez l'habitude, et cette fois-ci, c'est le journaliste Tristan Valbonne qui nous la raconte.
Paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de financement non plus pour l'éducation aux médias que ces dernières années, et c'est quelque chose qui va plutôt croissant, même s'il y a eu ce gel actuel. Tristan Valbonne, journaliste, responsable de l'éducation aux médias et la sensibilisation des publics cibles à l'association La Chance pour la diversité dans les médias. La part du pass culture, elle a été augmentée ces dernières années. Nous, on le voit aussi avec les appels à projets sur les résidences, avec l'investissement d'un certain nombre de financeurs sur la question. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien avec le contexte actuel, avec les enjeux aussi internationaux, notamment en période de conflit, au niveau de la guerre informationnelle et politiquement plus généralement, l'information aujourd'hui, c'est quelque chose de précieux. Il y a péril dans la demeure, pas que au niveau du gel du pass culture. Et donc, voilà, il faut aussi armer les citoyens et les citoyennes de demain par rapport à ça. J'ai un ancien bénéficiaire qui me disait l'éducation aux médias, c'est le journalisme dans sa forme la plus noble, au sens où on redonne la parole à un public qui se l'est vu parfois confisqué. Et en termes d'unicité de valeur de la République, c'est effectivement militer activement. On peut être militant et rigoureux.
Place maintenant aux travaux pratiques pour Amélia, Gabriel, Amida et les autres.
TV5 Monde, 26 octobre 2024.
Objectif des prochains jours, réaliser une vidéo pour déconstruire l'infox des pathos insectes.
Je te dis 3, 2, 1, et quand j'ai fini, eh ben tu démarres, d'accord ?
Ok.
3, 2, 1, vas-y.
Alors on entend beaucoup de gens dire que les pâtes ont de la farine d'insectes alors que c'est faux, ça existe. Les pâtes sont faites de farine, de glucides, sans gluten et sans blé. Et du coup, ça existe avec des légumes, voilà.
Ils sont en train de devenir des jeunes adolescents, en train de quitter l'enfance, et donc ils vont commencer à s'intéresser à tout un tas de sujets de société. Et il ne faudrait pas qu'ils se fassent avoir par différentes manipulations. Et on va leur proposer, nous, de faire un petit peu comme des journalistes, à leur manière, avec leur code de réseaux sociaux, de trucs un petit peu marrants, un peu fun, etc. Et en même temps, en parallèle de ça, d'apprendre des choses de journalistes que tout le monde peut apprendre pour ne pas se faire avoir par les fake news.
Ce qui a été très problématique, c'est la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire que ça a été très brutal, et ça a été brutal à la fois pour les enseignants qui portent à bout de bras aussi des projets tout au long de l'année, les intervenants et les intervenantes qui se mobilisent aussi pour préparer ces projets en amont, ou parfois qui les portent, et puis pour les élèves aussi qui devaient en bénéficier. Il y a une grande question aujourd'hui qui est effectivement, si on érige l'éducation aux médias comme une priorité, quid de la structuration des acteurs et des actrices de l'éducation aux médias, quid de cette question financière, parce qu'il y a des acteurs et des actrices aussi plus ou moins intéressés. Et aujourd'hui, il y a un grand point d'interrogation sur ce que l'éducation aux médias est en train de devenir. C'est quelque chose qui a une évolution vraiment exponentielle. Et il faut structurer ça. Et il faut se structurer aussi entre acteurs et actrices de l'éducation aux médias, entre associations, entre journalistes, entre intervenants. Aujourd'hui, il y a des initiatives. Il y en a qui sont portées par La Chance, notamment, mais pas que. Et ça permet des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, La Chance, en Ile-de-France, on a un budget pour faire des formations de nos intervenants. Toutes les associations en EMI n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un budget dédié à la formation en interne des intervenants. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on partage ces formations avec les bénéficiaires, avec les intervenants en fait des autres associations. Ça, c'est un acte déjà très concret. Ça peut être aussi la mutualisation de matériel, et puis c'est la mutualisation de savoir, des retours d'expérience. Et je l'espère aussi plus tard peut-être une voix collective qui peut porter et qui doit porter parce qu'on n'a pas tous les mêmes relais. L'ériger en priorité c'est une chose, se donner les moyens et l'ambition aussi de pouvoir agir parce que c'est prioritaire, c'est vital.
Ainsi se termine Riposte, le podcast du journalisme dans le dur, un podcast réalisé par Pierre-Yves Bulteau avec la complicité de Juliette Demey. Ciao.
Radio U, Radio U, 101.fm à Brest.
Attaque aux réactions, Riposte, le podcast du journalisme dans le dur. Plus que jamais, le journalisme est un sport collectif et de combat, sans gants de boxe ni retouches IA. Contre les obsessions fascisantes, les manipulations médiatiques et autres polarisations politiques, l'information est au cœur de la bataille des récits. Riposte, c'est le nom de ce podcast, un outil démocratique pour réenclencher l'impact citoyen. Un petit manuel d'autodéfense intellectuelle pour se réarmer et défendre nos communs. Alors, micro en main avec Juliette Demey, nous avons profité de l'édition 2025 des Assises du journalisme de Tours pour enchaîner les entretiens. Avec des chercheurs, des lanceurs d'alerte, des parlementaires et bien sûr des journalistes. Des témoignages qui documentent les atteintes contre la liberté d'informer, autant d'axes de réflexion possibles pour préserver le droit de savoir. Riposte, le podcast du journalisme dans le dur, c'est parti.
On a vu rappliquer des têtes de gondole de CNews sur l'antenne d'Europe 1. On était déjà un peu colonisés.
C'est vrai que la façon dont nous, on le voit, ce sont des alertes qui permettent de faire vivre la démocratie aussi.
Donc, la moindre des choses, c'est de respecter la base, c'est-à-dire on présente des faits qu'on a préalablement recoupés et on respecte les différentes opinions tant qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi, bien sûr. C'est hallucinant qu'on soit obligé de le dire.
Et donc, il s'agit pour nous, collectivement et individuellement, de résister face à l'emprise croissante de ces plateformes qui sont structurellement toxiques.
Pas d'investigation journalistique sans alerte citoyenne, pas d'impact démocratique sans une information totalement indépendante, le schéma peut paraître binaire, voire un poil simpliste, c'est pourtant la voie de défense de l'intérêt général. Pour bien mesurer de quoi l'on parle, faisons un peu de stats. Entre 2018 et 2020, soit les deux premières années d'exercice de la maison des lanceurs d'alerte, 85% des 200 personnes accompagnées étaient employées ou bénévoles au sein de l'organisation incriminée. Et parmi les cas signalés par ces citoyennes et citoyens concernés, 38% avaient trait à des faits de corruption, 19% à des actes de maltraitance et 17% à des enjeux graves liés à des questions de santé, de pollution et d'atteinte à l'environnement. 5 ans plus tard, le nombre de ces lanceuses et lanceurs d'alerte a plus que doublé pour atteindre dans notre pays 473 personnes. Pourtant, lancer l'alerte et la recevoir ne s'improvise pas. Et c'est tout l'enjeu de ce guide pratique sorti en avril 2025 par la Maison des lanceurs d'alerte, un ouvrage qui décrypte le cadre juridique français et détaille les protections existantes ainsi que leurs limites. La suite, c'est Elodie Nas qui nous la raconte.
Donc à la maison des lanceurs d'alerte, on reçoit un signalement et du coup, on donne un avis si ce signalement peut être considéré comme une alerte. Elodie Nas, déléguée générale de la maison des lanceurs d'alerte. Et donc, la personne qui émet ce signalement bénéficiait du statut de protection des lanceurs d'alerte. Donc, on se réfère quand même à la loi française qui est assez restrictive quand même, qui à la fois parle de faits dénoncés qui s'assimilent à des crimes, délits, violation d'intérêt général et violation d'accords internationaux, avec certains critères, donc la bonne foi, pas de contrepartie financière. C'est vrai que la façon dont nous, on le voit, ce sont des alertes qui contribuent à protéger l'intérêt général, à défendre l'intérêt général et qui permettent de faire vivre la démocratie aussi. Nous, à la Maison des lanceurs d'alerte, on accompagne les cas de corruption très larges. Donc, ça va être des détournements d'argent public, des prises illégales d'intérêt. Ça va être aussi des scandales sanitaires ou violations de normes environnementales. Mais on a aussi des cas de violences policières, de violences sexuelles dans des établissements recevant du public vulnérable. Voilà, c'est une palette et de lieux et de faits qui sont très variés. Et la majorité des personnes qui alertent ne sont pas des Irène Frachon ou ne sont pas les mêmes montants d'argent public dénoncés, par exemple. Mais ce sont des faits qui ont des impacts sur les citoyens et citoyennes d'une collectivité locale, de la population d'étudiants d'université. Enfin, ce sont des gens assez normaux, j'ai envie de dire, assez lambda, comme on dit, qui sont aussi, voilà, qui remplissent aussi leurs devoirs de citoyens et citoyennes.
La Maison des lanceurs d'alerte, fondée en 2018, s'occupe justement de prendre en charge ces personnes.
Val-de-Loire TV, mars 2025.
Les sollicitations ne cessent d'augmenter. Exemple, l'année dernière, l'association dénombre 114 nouvelles alertes. Pour donner suite aux demandes, une équipe de juristes analyse chaque dossier.
Et si vous correspondez aux critères, on va rentrer dans un accompagnement juridique, mais effectivement aussi potentiellement médiatique. Essayer de mettre en relation avec des journalistes d'investigation qui ont, voilà, que ce soit des médias locaux qui sont spécialisés sur ces sujets ou des médias nationaux. On s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux aussi à former, outiller les journalistes dans la médiatisation d'une alerte, mais aussi les lanceurs et lanceuses d'alerte dans leur façon de s'adresser à des journalistes. Et donc, ce guide pratique, il donne à la fois des éléments cadre juridique global sur la protection des sources, la protection des lanceurs d'alerte. Et le guide donne aussi des conseils un peu pratiques sur comment créer une relation de confiance entre journalistes et lanceurs et lanceuses d'alerte, une relation de confiance, mais aussi qui soit protégée. Effectivement, quand on dénonce voilà, un crime, un délit, une violation d'intérêt général, et qu'on subit souvent des représailles qui sont terribles, qui ont des impacts dans notre vie, c'est quand même assez hallucinant, hein, les parcours qu'on suit. La première chose qu'on veut surtout, c'est pas vraiment parler de soi, c'est faire en sorte que les faits qui ont été dénoncés soient résolus d'une certaine façon ou qu'il y ait une forme de réparation aussi. Mais il faut aussi se dire que ce n'est pas parce qu'une alerte des faits illégaux sont dénoncés que quelque chose va se passer après. Et ça, c'est pas forcément évident quand on a voilà, mis beaucoup de son énergie, de sa vie pour dénoncer quelque chose qui nous paraît et qui est gravissime. Ben, en fait, ça fait quelque chose aussi quand on est lecteur, lectrice, quand on... Voilà, quand on regarde un reportage, je sais pas, on peut aussi s'identifier, on peut aussi s'y associer. Le devoir de citoyen et citoyenne qui est d'alerter.
Ils ont mis ma maison sous scellé, hérissé les murs barbelés, cloué une plaque non civilisée et m'ont laissé les yeux embués. Une semaine avant, on le savait, un SUV vert nous suivait. Ils ont laissé mon père pour décéder. Et ma mère, ils l'ont stérilisé. Alors j'ai envoyé mon appel à l'aide dans une vidéo tuto. Adolescente et lanceuse d'alerte, j'ai pas d'autre choix que de le faire sur TikTok. Tout ça, c'était sans compter la cybersurveillance au pays de Mao.
On vient l'entendre, sans alerte citoyenne, pas d'impact démocratique, mais sans une information totalement indépendante, pas de défense de l'intérêt général. Alors dans cette équation, ajoutons une nouvelle donnée, la guerre de l'information. Cette doctrine est une doctrine dite des trois guerres qui commence par l'imposition de récits dans l'opinion, avant l'entrée en action de la guerre algorithmique, puis de la manipulation des institutions politiques et juridiques. Dotée de moyens financiers illimités, cette doctrine est utilisée pour séduire, contraindre, contrôler, désinformer, désorienter ou réduire au silence toutes celles et tous ceux qui pourraient représenter une menace pour la survie et l'hégémonie des régimes autoritaires et illibéraux, une infection d'abord primaire, le récit, puis secondaire, la désinformation, qui s'attaque en priorité à la sphère informationnelle pour pirater le débat public. La suite, c'est David Collomb qui nous la raconte.
En réalité, ce n'est pas une infection par les plateformes, mais une infection par des acteurs malveillants qui instrumentalisent les outils de ces plateformes, par exemple les outils publicitaires, pour propager des récits, souvent des récits des informations, de même qu'ils s'efforcent d'inonder les espaces informationnels numériques de contenus qui mécaniquement vont ensuite infecter et fausser les systèmes algorithmiques des moteurs de recherche, des agents conversationnels, les chatbots, ainsi que tous les algorithmes de recommandation des plateformes. Donc, je m'appelle David Collomb et je suis enseignant et chercheur à Sciences Po, auteur de La guerre de l'information aux éditions Talendier. La guerre cognitive algorithmique, c'est un concept qui a été élaboré par l'Armée populaire de libération de la République populaire de Chine, qui repose sur l'analyse approfondie de la part du renseignement militaire chinois de ce qui a été fait concrètement par les désinformateurs russes depuis une décennie. Et ils ont constaté que l'avènement de l'IA générative offrait de nouvelles surfaces d'attaque pour toucher les esprits des individus dès lors que ceux-ci sont de plus en plus exposés à des écrans dès leur plus jeune âge. Ces deux surfaces d'attaque sont le big data, pour des messages de plus en plus ciblés, et les algorithmes de recommandation qui peuvent fausser les perceptions. C'est une stratégie qui plus est qui a été officiellement entérinée par Xi Jinping en personne devant les autorités militaires.
Venons-en au 21e siècle et commençons par établir une distinction entre les processus informationnels délibérés et involontaires.
Le dessous des cartes, Arte, le 23 septembre 2023.
Depuis la pandémie de Covid et la diffusion massive de fausses informations qui s'en est suivie, l'ONU distingue trois catégories. La désinformation d'abord. Elle repose sur des faits totalement faux et vise à nuire délibérément. Il s'agit donc bien d'une manipulation de l'information. Deuxième catégorie, la mésinformation. Elle se distingue de la désinformation par son caractère non intentionnel, bien que les informations concernées soient tout aussi fausses. Enfin, troisième catégorie, la malinformation. Elle se distingue par son caractère partiellement véridique, avec des informations utilisées pour nuire. Il s'agit d'une présentation volontairement trompeuse d'un fait réel.
C'est très simple. Les agents conversationnels reposent sur des larges modèles de langage qui sont entraînés sur des données. S'ils sont entraînés sur des données fiables, ils vont restituer des contenus fiables. S'ils sont entraînés sur des données qui ne sont pas fiables, ils vont restituer des réponses qui ne seront pas fiables. C'est le principe garbage in, garbage out, que connaissent bien les ingénieurs, en particulier britanniques, depuis plus de 70 ans. Par conséquent, le travail des acteurs étatiques malveillants comme le Kremlin consiste, de façon aujourd'hui tout à fait assumée, à inonder les environnements numériques web de contenus qui vont en retour venir fausser mécaniquement les résultats de ces moteurs de recherche. De sorte que quelqu'un qui voudra, par exemple, se renseigner sur Zelensky pourra être exposé à des récits des informations le concernant. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un espace public d'intérêt général, véritablement libre, qui ne soit pas comme il l'est dans le numérique, capté par des acteurs privés qui cherchent à gagner de l'argent, et non faussé, c'est-à-dire qui ne repose pas sur des algorithmes qui servent des intérêts privés au lieu de servir d'intérêt général. Qui soit géré par une fondation non-profit, qui repose sur des algorithmes transparents, qui ne repose pas sur un modèle publicitaire prédateur, ni sur la collecte de données, et qui permette de restaurer un débat public reposant sur l'expression libre et non faussée des opinions dans l'espace numérique. Et donc, il s'agit pour nous, collectivement et individuellement, de résister face à l'emprise croissante de ces plateformes qui sont structurellement toxiques.
C'est juste un petit gars qui grandit à Pretoria, où on prête qu'aux riches, mais heureusement, il y a papa. Qui travaille dans les mines sans avoir besoin d'y descendre. Il a la mauvaise mine, il sort pas trop de sa chambre. Maintenant il bosse dans la tech, mais c'est un grand sensible. Comme ses voitures autonomes, il est en roue libre. Il est libre, masque. Il est libre, masque. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Quand il va en Allemagne, il rend visite aux amis. Des gens qui, comme lui, aiment faire des saluts romains. Il anime les meetings, les mariages, les bar mitzvahs. même s'il souffre d'un peu de tendinite au bras droit. Il est libre, masque. Il est libre, masque. Il y en a même qui disent c'était pour rigoler.
Des lanceuses et lanceurs d'alerte à la bataille de l'information, terminons justement cet épisode de Riposte avec une autre alerte, celle lancée le 21 mars 2023 par l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés. Plus d'une centaine de cartes de presse luttant contre le racisme dans la profession et les productions médiatiques, un enjeu de visibilisation et de lutte en dehors et au sein même des rédactions que nous raconte Marie Zafimei.
L'impact que ça peut avoir déjà, c'est si une rédaction est très blanche et très et peu représentative de la société dans les classes sociales qu'elle représente, il va y avoir des biais au niveau de l'information. Nous, on le voit notamment avec des récits qui vont être totalement invisibilisés, par exemple, notamment des récits des parcours de migration, des récits de situations racistes qui peuvent être vécues par plein de Français. Et le fait de ne pas avoir de personnes racisées dans une rédaction, ça va faire que peut-être que le chef qui n'est pas concerné parce qu'il n'est pas concerné par le racisme, il ne va pas voir le sujet important à aborder sur le témoignage d'une personne, par exemple. Oui, dans un monde idéal, la JAR n'existerait pas. Mais comme Prenons la Une n'existerait pas, comme la JL n'existerait pas. Là, depuis sa création, la JAR ne fait que prouver la nécessité qu'elle a d'exister, en fait. Le nombre de sollicitations qu'on reçoit, on fait énormément de tables rondes, on fait de l'éducation aux médias aussi dans les lycées, les collèges, les écoles de journalisme. On fait beaucoup d'interventions, on est beaucoup sollicité aussi par des médias en fait qui souhaitent juste avoir le point de vue de la JAR sur tel traitement médiatique de tel sujet.
Racisé, c'est qui subit le racisme, mais qui surtout est considéré par le groupe majoritaire comme faisant partie du groupe minoritaire. Et entre ces deux groupes, il y a évidemment un enjeu de pouvoir et de domination.
Khadija Zerwali, journaliste à Mediapart.
En fait, c'est très difficile de lutter quand on n'arrive pas à mettre des mots sur qui nous sommes et sur ce qui nous oppresse. Et donc ce terme racisé, il est certes imparfait, parce qu'il ne dit pas la diversité de toutes les racialisations qui sont les nôtres et de toutes les discriminations que nous vivons, mais il est l'outil premier qui nous permet de nous réunir entre personnes racisées et de combattre le racisme.
Alors j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est d'abord on fait notre veille médiatique et on interpelle les médias à chaque fois qu'on l'estime nécessaire sur un traitement raciste de l'actualité. On fait ça sur nos réseaux sociaux, on fait des threads sur Twitter, on fait des posts Instagram et on tague les médias, toujours en rappelant qu'on est à la disposition des médias pour faire des formations. Donc on espère continuer avec d'autres les années qui arrivent. Mais voilà, on fait des interventions en école journalisme pour les futurs journalistes, mais on fait aussi dès le collège et le lycée où on intervient dans des classes pendant plusieurs heures et on décrypte ensemble des traitements racistes qui ont été faits dans les médias et on aborde la question du racisme plus largement. On met aussi à disposition des kits. Donc alors on a le kit Outre-mer qui est sorti l'année dernière. Alors les kits c'est quoi? C'est en fait une sorte de mode d'emploi pour les journalistes, lorsqu'ils traitent l'information, de le faire de façon non raciste, antiraciste même. Et donc ça va être un guide sur les bons mots à employer, les bons termes, les formules à éviter, etc. Donc par exemple, sur le traitement de l'information qui vient des Outre-mer, ce sera parler de l'Hexagone plutôt que de la métropole. Faire attention aux mots qu'on utilise pour parler des personnes qui habitent aux Antilles. On a même une formation qui est prévue en 2025 dans un média. On le répète, on se tient à disposition des médias et des écoles de journalisme pour venir sensibiliser les étudiants et les journalistes à la question du racisme.
Ainsi se termine Riposte, le podcast du journalisme dans le dur, un podcast réalisé par Pierre-Yves Bulteau avec la complicité de Juliette Demey. Dans un prochain numéro, nous retrouverons François Bonnet, cofondateur de Mediapart et président du Fonds pour une presse libre, un entretien au long cours que l'on pourrait résumer ainsi. Le journalisme est une zone démocratique à défendre. D'ici là, portez-vous bien, à plus sur Riposte, ciao.
Alors c'était les deux premiers épisodes du podcast Riposte, le récit du journalisme dans le dur, produit par le média d'investigation breton Splande. avec le soutien de l'association Journalisme et Citoyenneté, Radio Campus France et les Assises du Journalisme de Tours, d'après une idée originale du journaliste Pierre-Yves Bulteau. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
Radio U vous suit de A à U.